bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Aujourd'hui, on vous propose un épisode de Croissant de Lune, toujours en compagnie de Tsukimi. Alors, pour rappel, Croissant de Lune, c'est un format qui est exclusif à l'audio, donc uniquement trouvable sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, dans lequel on parle de manga de manière, disons-le, plus chill et plus relax que d'habitude. Aujourd'hui, on a un sujet qui est assez précis, le one-shot, qui nous donne l'occasion d'expliquer pourquoi on aime tant ce format, qu'est-ce qu'il apporte au lecteur, mais aussi à celui qui le fait. En programme, il y a évidemment la classique recommandation de Kevin, et moi je vais vous parler d'un événement tout à fait particulier qui aura lieu au mois de mai. Je ne vous en dis pas plus, j'en parle à la fin du podcast. La semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 40 du podcast, déjà épisode 40, donc la 40e interview du podcast, c'est assez fou. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode via Instagram ou même via Spotify dans l'espace commentaire. Nous, c'est un format qu'on a à cœur de faire évoluer. Pour la prochaine, on vous prépare quelque chose d'assez spécial. Normalement, je m'avance peut-être un peu. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir de faire pour moi cette émission et je vous souhaite un très bon épisode en compagnie de Kevin et de Tsukimi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de avril finalement qui sortira début mai, très début mai, mais cet épisode d'avril de Croissant de Lune avec Kevin. Kevin, comment vas-tu ?
Ça va super. Ouais, petit retard ce mois-ci, mais bon.
Mais tu as dit, toi, t'as eu une bonne journée, journée bien chargée.
Ah, journée bien chargée, carrément, c'est férié demain, donc je pense que les gens sont venus se ravitailler pour lire chez eux tranquillement.
Ça avance fort.
Donc en vrai, ouais, bonne journée, intense, mais bonne journée.
Moi, je reviens de Paris pour l'épisode 41 du podcast qui sortira dans 3 semaines, je crois, à partir d'ici, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on a un programme qui est assez spécifique, puisque on a un mot d'ordre, on a une ligne directrice qui est « Pourquoi les one-shots, c'est cool ?» Et comment cet épisode va être organisé ? Il va être organisé d'abord pour on va avancer nos points sur ce qu'on aime et ce que peut-être on n'aime pas aussi dans les one-shots. On va parler des one-shots qu'on aime bien et à la fin, forcément, Kevin nous fera une recommandation et moi, je vous parlerai d'un projet tout particulier qui est un projet mêlant musique classique et manga. Il y a eu un budget dessus de 3 millions d'euros. Il y a des trucs hyper intéressants à dire, mais vous verrez tout ça à la fin. On va commencer par Kevin. Pourquoi t'aimes les one-shots, toi ?
Alors, un one-shot. Donc déjà, un one-shot, c'est une histoire une histoire très courte qui se tient en un volume généralement. Après, là, on va parler de one-shot. Peut-être qu'on poussera jusqu'à 2 volumes, 3 volumes.
Mais c'est une série très courte, en fait.
Ouais, c'est ça. On peut les mettre un peu dans la même catégorie parce que c'est ça, c'est le principe d'avoir une histoire très très courte et condensée. Qu'est-ce que j'aime dans le one-shot ? Donc déjà, premièrement, c'est je suis assez fasciné par la capacité de certains auteurs à nous faire ressentir des émotions, nous plonger dans une histoire en si peu de temps. Tu sais, des fois, t'as des séries, les mecs qui te disent « Bah, faut lire les 3 premiers tomes pour se mettre dedans et tu vas voir, après, ça part. » Non, là, les mecs, en 2-3 pages, des fois, ils arrivent à te plonger dans une histoire, à te faire t'attacher à des personnages. Et je trouve ça assez fascinant, quoi, cette capacité-là.
Mais tu vois, je te rejoins carrément sur ce point-là, d'autant plus que des fois, et moi, ça a tendance à me freiner un peu, c'est quand t'arrives sur une série qui se veut à être longue, la mise en place de l'univers, elle va être assez importante dans l'histoire, c'est-à-dire expliquer les règles du fonctionnement du monde, c'est quoi l'interaction, c'est quoi les institutions de ce monde-là, etc. Généralement, dans les one-shots, t'as besoin d'avoir une idée forte, ou un personnage fort, ou quelque chose de fort. Enfin, en fait, d'avoir un point qui se détache du reste, auquel tu vas directement dessus. Et je trouve que ça renforce le fait que, comme il est tout seul, ce point à être mis en avant, que ça soit l'histoire, le concept, tu vois, avec, l'histoire, le concept, même l'intrigue, ou peu importe, le personnage, ou à l'inverse, je sais pas, le fait qu'il se passe rien. Enfin, on en parlera, il y a un manga, une chose où il se passe pas grand chose, mais c'est cool. Bah, en fait, comme t'as que ce concept-là, tu le retiens pour ce concept-là et pas pour tous les décors qu'il va avoir autour. Enfin, quand je dis les décors, c'est les paillettes qu'ils vont mettre pour rendre bien l'histoire avec l'univers, l'action, machin, tout ça.
Complètement. Et là, quand tu parlais par exemple de personnages ou des trucs comme ça, des fois, tu peux être vraiment pas du tout pris par la main, plongé instantanément dans la vie d'un personnage. Mais comme tu dis, le personnage a suffisamment de personnalité ou de relief est suffisamment intéressant pour qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de base, on n'a pas forcément envie d'en savoir beaucoup, quoi, tu vois, genre, c'est trop intéressant.
Ouais, il y a aussi un pattern qui, je trouve, qui se voit dans les one-shots, c'est que, à la différence des mangas qui se veulent en série, qui vont être publiés chaque semaine, etc., où des fois, tu vas pas avoir le temps de travailler les décors ou quoi que ce soit, les one-shots, justement, c'est un peu ce moment où les gens, les mangaka ont du temps, enfin, pas du temps, mais toutes les planches vont être travaillées au possible, je trouve.
Ouais, carrément. Encore une fois, l'œuvre est si courte qu'elle doit être impactante et elle doit être presque parfaite, quoi. Carrément. Hyper clean, surtout. Donc, en effet, elle est... et c'est aussi, pour certains auteurs, des fois, c'est, ça leur permet, bah, d'essayer des choses.
Exactement.
Ça leur permet, de sortir un petit peu, des fois, de leur rythme qu'ils ont sur de séries ou sur des choses comme ça. Donc, peut-être de prendre, parfois, peut-être plus de plaisir à écrire des histoires qui leur tiennent peut-être plus à cœur, avec plus de liberté. Que quand ils écrivent leur série sérialisée où il faut toutes les semaines sortir son clairement. Chapitre avec une histoire qui doit avoir ce genre de code et tout ça quoi.
Et justement, je pense qu'on a, moi j'ai un exemple, même deux exemples. On en a cité un tout à l'heure. Est-ce que tu peux en parler
Au niveau de l'auteur qui.
Du fait de tester des choses, tu vois, genre de sortir de sa zone de
confort. Ouais. Donc on parlait bien sûr de Adieu Eri. De carrément. Tatsuki Fujimoto. Adieu Eri, et on peut aussi parler de Lookback, hein, de toute façon, qui sont deux one-shots de l'auteur, qu'il a fait après la pause Chainsaw Man.
Ouais.
Donc, il a fait la première partie de Chainsaw Man, il a mis une pause en 11 tomes, il a mis une pause avant son tome 12,
okay.
Et il s'est fait deux one-shots tranquilles, deux histoires. Lookback, qui est clairement une déclaration d'amour au manga, et Adieu Eri, qui est clairement une déclaration d'amour au cinéma.
Ok.
Et construite totalement différemment, mais construite de manière tellement originale.
Parce que j'ai pas du tout en tête les cases de Lookback.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand tu dis Adieu Eri, c'est une déclaration d'amour au cinéma. Bah rien que par les cases, c'est vraiment des plans de caméra. C'est le mec, il a sorti sa caméra anamorphique, plan un peu allongé, et les plans s'enchaînent bêtement comme ça.
Ah mais c'est impressionnant, et il a été tellement malin. Donc les plans s'enchaînent comme ça avec.
T'en as 5 par 4 je crois, enfin par.
Ça, ouais, peut-être 4 ou 5 ouais. En effet. Et il a intégré le flou. Il y a des moments où il a intégré le côté statique d'une ouais. caméra. Donc il y a par moments les deux pages entières, c'est les 5 mêmes cases quoi. C'est vraiment comme si la caméra ne bougeait
ouais,
pas et filmait un plan fixe.
Et...
le flou, donc il y a des moments, il y a des personnages qui parlent et on va le voir du coup un peu saccadé, on va les voir un peu, enfin, on s'y croit mais totalement.
Vraiment comme si il avait posé sa caméra et il avait laissé l'histoire se dérouler et.
Complètement. Et encore une fois tellement, enfin j'avais jamais vu un découpage comme ça, de justement avec ces 4 cases en long comme ça, des grandes cases en long.
Et puis tu vois très bien sur un one shot, peut-être indigeste sur une histoire longue.
Ah mais ouais complètement. Je pense que vraiment. Tu mets 10 tomes de ça, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Enfin, genre, t'aurais envie d'un redécoupage assez classique et tout ça. Là, c'est juste parfait parce que c'est frais, c'est le temps d'un tome, le temps d'une histoire, elle se lit d'une traite, franchement.
Clairement.
Enfin, comme Lookback, ça se lit d'une traite. Et là, encore une fois, la force de l'auteur, c'est l'auteur, elle a... il te fait rentrer dans l'histoire d'une manière trop originale.
Okay.
Derrière, tu vis des événements et en fait, l'auteur, tu ne sais jamais ce qu'il va t'apporter.
Est-ce que tu peux faire un petit résumé rapide de Adieu Eri?
Adieu Eri, c'est un jeune garçon, enfin c'est un garçon, il doit être au collège ou au lycée peut-être.
Okay.
Et sa mère est mourante et elle lui demande du coup de filmer ses derniers instants, tous ses derniers instants avant sa mort.
Okay.
Donc il s'exécute, il la filme jusqu'à limite son dernier souffle. Il en fait un montage et il le montre à sa classe. Le film se termine. Et sa classe lui fait que des retours horribles. Il lui dit que le film est trop nul, que... Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. Tu commences, t'es là, oh, mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est vraiment l'histoire de sa mère qui meurt et on lui fait des retours horribles. Donc, le jeune pense à se suicider. Et au moment de se suicider, il rencontre une jeune fille, Eri, qui lui dit, non, mais saute pas, ton film, il était pas si nul que ça. C'est juste qu'il manquait un petit truc, une petite chose pour épater tout le monde. Viens, on en refait un. On va rajouter cette petite dose qui manquait et tu vas voir, ça va être trop bien. Et du coup, tous les deux vont se repartir ensemble pour faire un nouveau film, quoi. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. C'est hyper touchant. Encore une fois, en très peu de temps, Fujimoto, il t'attache au personnage, tu rigoles, tu pleures. Vu avec ce découpage-là, à la fois, il montre la vie de tous les jours, enfin, la vie réelle, on va dire, et à la fois, il montre la vie filmée. Donc, toi, en tant que lecteur, il te surprend parce que des fois, tu te perds. T'as l'impression que c'est la vie réelle, mais en fait, ah non, en fait, c'était, ça faisait
un
partie du film. Ouais, mais complètement. Et il y a des moments, t'as l'impression que c'est le film, mais en fait, oula, non, en fait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer,
merde.
Tu vois. Il te perd complètement entre réalité et fiction, tu vois.
Et ça, c'est fort.
Ah, c'est trop fort.
Pour
franchement.
Jouer sur les tableaux comme ça, c'est quand même balèze.
C'est balèze, t'es surpris à la fin, enfin.
Mais tu vois, ça, c'est une histoire qui pourrait vachement plus me plaire, alors que Chainsaw Man, j'ai aimé.
Ouais.
Mais j'ai pas été transcendé par l'histoire. Je sais que Kamal et Kita du Mon Corvo ont kiffé Chainsaw Man parce que t'as tout ce truc de l'anti-héros, tu vois, c'est pas un mec auquel t'as envie de t'identifier, etc.
Complètement.
Mais je sais pas, moi j'ai pas pris parce que Je sais pas, j'ai peut-être pas été sensible à la proposition.
Ce que je peux entendre, hein, franchement, bah, ça a énormément de succès, mais il y a ceux qui aiment, il y a beaucoup de monde aussi qui n'aime pas pour le coup Chainsaw Man. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup aussi parce que j'ai ce côté, en fait, c'est ce que j'adore, c'est cet auteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet auteur est considéré par beaucoup comme un des meilleurs auteurs de sa génération. C'est que, il prend les codes et il marche les tord dessus, dans tous les sens, il marche dessus, il s'amuse, enfin, mais tout en faisant des références à ces codes-là, justement, tout en ce que tu puisses les identifier et que tu puisses.
Et tu vois, je pense que si l'on arrivait là, alors là, c'est une grosse supposition, donc on met des pincettes dessus, mais il y a aussi ce truc qu'avant, il a fait pas mal d'histoires très courtes. Genre, tu sais, il a ses recueils d'histoires, là. Et je pense que ça aide à gagner énormément d'expérience parce que en faisant une histoire courte, tu vas travailler sur tous les points d'une bonne histoire. Si tu prends, par exemple, tu sais, il y a des auteurs comme John Truby ou quoi qui ont fait des livres qui s'appelle en l'occurrence l'anatomie du scénario, qui explique les différentes étapes d'un bon scénario, tu vois, avec... Enfin, il y a le voyage du héros, il y a plein de types de scénarios.
Ouais, j'avais vu un peu, il y a des étapes un peu
exactement,
presque
un
obligatoires.
Peu je ne sais plus, il y en a combien dans celui de John Truby, je me demande s'il n'y en a pas 11 étapes ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais le fait de mettre ces 11 étapes sur 80 pages, sur 30 pages, sur je ne sais pas quoi, tu les travailles toutes, tu les maîtrises vachement plus vite parce que c'est de la répétition, hein, c'est comme tout, tu vois, tu répètes. Peut-être qu'il y a des trucs que tu aimerais plus développer, mais c'est pas grave, ce sera pour plus tard, pour ton histoire longue. Mm-hmm. En attendant, tu travailles ton anatomie du scénario, justement, la manière de raconter une histoire. Et il y a quelqu'un qui argumentait et qui avançait exactement cet argument-là, pardon, qui est de faire des histoires courtes pour faire des histoires longues. Et c'est tout simplement une personne dont tu peux pas passer à côté, qui est Tezuka.
Mm-hmm.
Il disait... C'est quoi ces auteurs qui veulent faire des histoires longues alors qu'ils ont jamais fait de strip de 4 cases, tu vois?
Ouais.
Genre, il a un livre qui s'appelle, je sais plus, mais c'est genre, La magie du manga ou je sais plus quoi, c'est quelque chose comme ça, c'est un livre qu'il a fait, c'est, où il explique comment il fait des mangas.
Ouais.
Et je pense que je suis arrivé à la moitié de ce livre pour l'instant. On n'a pas passé l'étape des 4 cases, hein. C'est vraiment pour l'instant que des histoires en 4 cases.
Ok, ouais, d'accord.
Okay, où il explique, ouais, genre la chute, machin, tu mets en place, première case tu mets en place, deuxième case il y a la chute, troisième case résultat, enfin bref.
Bah, en fait, ouais, si t'arrives à, encore une fois, à avoir des histoires suffisamment puissantes pour qu'en 4 cases elles soient percutantes, mais alors ça veut dire que si en plus de ça on te laisse le temps, bah tu seras bon, quoi.
C'est ça, c'est que tu comprends comment ça fonctionne. Après, faut remettre en contexte, hein, à ce moment-là, les mangas c'était surtout dans les journaux au Japon et c'était plus des strips comique,
ouais,
que l'idée de faire véhiculer un message spécifique ou quoi que ce soit. C'est un peu comme on pourrait retrouver aujourd'hui avec les caricatures, enfin dans les magazines.
Complètement.
Mais ok.
Mais ouais. Donc pour le coup.
Moi, tu vois, il y a un auteur qui est français que je kiffe trop. Hein, c'est Senshiro.
Ok.
Il est sorti Suite Concrete. Et pour moi, Suite Concrete, il y a plein de bonnes idées, mais il y a trop d'idées, tu vois.
Okay.
Genre, j'étais en mode. Mais je pense que c'est une discussion qu'on avait eue, hein, mais il l'a dit lui-même, c'est qu'il se prend le manga, il voulait mettre beaucoup de choses dedans, etc. Et au final, bah moi, en tant que lecteur, je me suis un peu perdu dans l'histoire, tu vois. Parce qu'il a un système, t'arrives dans une ville qui est complexe, avec un système de relations, de hiérarchie qui est complexe, des pouvoirs qui sont complexes, une intrigue qui est complexe. Ça avait beaucoup de complexité. Quand t'es au tome 1, t'as... Ah, ok. Après ça, il a sorti deux one-shots. Princesse Pincette et Running to Your Heart. Franchement...
J'ai pas lu.
Princesse Pincette est cool.
Ouais.
Running to Your Heart, ça appuie l'argument que je disais, que ça permet de tester des trucs, c'est un manga muet. Et je trouvais qu'il était trop bien. Parce
okay.
que déjà, il a pris, enfin, en vrai, il dessine, c'est un god du dessin, il est trop fort, Senshiro, je
ouais,
trouve.
C'est un truc de fou. Je colle sur Instagram à chaque fois.
Mais vraiment, ses points de vue, etc., ses ouais. chara design, j'aime trop. Et je trouve l'histoire, elle est simple. C'est simple mais efficace. Moi, je me suis attaché au personnage alors qu'il n'y a aucun discours ou quoi que ce soit. C'est un garçon qui, tous les jours, il prend le train et tous les jours, il voit une fille qui prend le train. Lui, il fait de la course, elle le dessine. Et globalement, c'est lui, il va devoir courir de plus en plus vite pour essayer d'aller dans le wagon, parce qu'il arrive toujours en retard, tu vois. Donc, pour arriver au dernier wagon où il y a la fille, il va courir de plus en plus vite. La fille, elle va le dessiner et tout. Et un jour, lui, il va pas se pointer. Donc, la fille, elle va paniquer. Et en fait, c'est juste qu'il s'est blessé à la course et il arrive en béquille. Enfin, c'est une fin toute bête. Mais tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui se crée entre les deux. Chaque jour, t'as la répétition de j'arrive sur le train, je le dessine. Et tu les vois chacun évoluer, lui dans sa compète, elle dans ses cours. Et je sais pas, à la fin, t'as une genre de... Ils osent se regarder. Genre, pendant tout le truc, ils se regardent pas, et à la fin, ils osent se regarder, et ça crée un petit truc, tu vois.
Ah, moi, ça a l'air super cool. Bah, je l'ai pas lu du tout.
Bah,
Running to Your Heart.
Okay. Il est sur Manga Plus, Creator.
Okay.
C'est la version en mode où tout le monde peut poster de Manga Plus.
Okay.
Et si je te dis pas de bêtises, quand il est sorti, il a fini genre en mode c'était le one shot le plus lu du mois. Ah. Genre 400 000 vues, enfin c'est okay. Huge.
Okay, okay.
C'est huge.
Bah en plus de ça, très intelligent le côté muet. Enfin du coup complètement universel. Universel et.
Il y a un concours de manga d'ailleurs qui s'appelle SMA je crois.
Silent Manga, ouais, c'est ça. C'est ça.
Et qui est justement qui met à l'honneur les mangas muets et je pense qu'il est très bien parce que encore une fois c'est des histoires courtes qu'il faut faire dedans et c'est universel donc si t'arrives à faire comprendre à travers ce concours bah t'as tout gagné.
Encore limite vraiment le travail ultime quoi. Ouais. Faire une histoire courte pour faire comprendre des choses trucs. Mais alors en plus tu t'enlèves les paroles ça veut dire que là faut travailler c'est les dur. Expressions, faut travailler la mise en scène, faut travailler tout et alors là vraiment travail ultime quoi.
C'est ça. Et en vrai ça rejoint. Il y a un argument qui est souvent donné, je sais pas si t'es d'accord, mais dans les mangas, des fois, il y a ce truc de t'as un décor, t'as une action qui se passe dans le dessin, et elle est explicitée dans les bulles.
Ouais, complètement.
Et ça, tu vois, c'est typiquement ce que faire un manga muet permet d'éviter.
Ouais.
Parce qu'en vrai, chiant.
C'est trop chiant, c'est trop dommage. Et enfin.
Fais un roman, tu vois.
Personne n'a envie. Bah, c'est aussi beaucoup ce qui est reproché. Bon, le pauvre, il galère à dessiner, mais avec la suite de Hunter, c'est aussi beaucoup ce qui est reproché, quoi. C'est que c'est imbuvable. Il y a des cases, enfin, des énormes des bulles de texte énormes. Et en fait, tu prends pas forcément de plaisir, quoi, à lire pendant des heures des bulles et encore une fois des bulles qui t'expliquent ce qui est un peu en train de se passer ou ce que tu vois. Bah, c'est un peu inutile et du coup bah ouais, le manga on trouve il y a un peu moins d'intérêt je trouve à ça quoi.
Et tu vois toujours pour appuyer un peu ce même argument, moi je trouve qu'un conseil, alors c'est peut-être un retour que j'ai l'impression qui est majoritaire et mais c'est que dans ma tête, mais j'ai l'impression que souvent les jeunes auteurs ou ceux qui veulent faire du manga tout du moins en France, ils ont directement cette idée de développer un univers complexe sur plusieurs tomes etc. Et ça avait été le cas de Anemin. Donc qui sont deux auteurs français qui sont édités sur Ichigo Stories.
Ouais.
Ils ont, je les connais bien et tu vois ils avaient ce truc de dès qu'ils avaient fini un chapitre, deux chapitres, bah, en fait ils évoluaient beaucoup en dessin. Et du coup, à la fin de ces deux chapitres, bah, ils recommençaient, ils les redessinaient. Et t'avances pas, tu vois. Et ils ont tourné comme ça longtemps. Jusqu'au jour, Nicolas David, qui fait Mekaz et Droners.
Ouais.
Il leur a dit, mais les gars, vous allez droit dans le mur. Genre, vous allez droit dans le mur. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Genre, commencez par des histoires courtes. Des histoires même de 20 pages, 30 pages. Faites des concours. Ça vous donne une date limite. Ça vous donne un thème imposé. Comme ça, bah, ça vous force à sortir de votre zone de confort. Et, en 20 pages, vous avez fini une histoire, vous avez des choses à montrer avec une chute et tout, et pas juste une introduction.
Mais tu peux plus y retoucher, quoi. Donc, il y a un côté, t'as pas envie, encore une fois, de perdre du temps et de te retoucher.
Pour le coup, ils se sont fait éditer avec un recueil d'histoires courtes, parce que ils ont pas soumis de dossier sur une histoire longue, sur 30 tomes ou je sais pas quoi. C'est l'éditeur leur a dit, bah écoutez, est-ce que vous êtes d'autres petites histoires? Ils ont envoyé les 5 ou 6 petites histoires qu'ils avaient. Et l'éditeur a dit, ok, on fait un recueil. Et eux-mêmes, en allant aux conventions et tout, ils ont dépassé les 6 000 ou 8 000 dédicaces, tu vois.
Ouais.
Donc, pour un truc fait à la base que sur des concours et tout,
ouais.
Bah ça prouve que il y a
fort,
quelque chose. Et là, ils entament un nouveau projet, qui est, le nom est très drôle, c'est The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead.
Enfin bref, stylé.
C'est une revisite du Chaperon, je l'aurais compris, et qui a un one-shot également, tu vois.
Ok.
Plus long cette fois, pas sur 30 pages, mais sur 180 ou 200, mais il reste en mode, on y va étape par étape, on a besoin d'apprendre à construire notre histoire correctement, et on peut pas brûler tout ça, tu vois.
Ok. Et du coup, qui sera pas forcément un recueil, mais plus une histoire complète.
Ouais, une histoire complète. En fait, il y aura deux mangas exactement, un seinen et un pour les enfants.
Intéressant.
Ouais.
Ok.
Donc c'est un peu ça. Louis aussi, Just Louis, qui est fort sur les one-shot.
Ouais, alors, bah ouais, qui avait fait
Red
Flower Stories, ouais.
Très très cool. Est-ce que t'as d'autres arguments à avancer
sur le one-shot?
Ouais.
Moi, je sais pas pourquoi, mais alors déjà, il y a un argument bête de mine de rien, c'est souvent ce que les gens recherchent. Donc, en tant que libraire, on me demande souvent des conseils de séries courtes. Ou de, enfin, c'est un bon moyen en fait de rentrer dans le manga.
Ouais.
J'ai plein de personnes qui débarquent et qui me disent ah bah j'en ai jamais lu. Qu'est-ce que vous me conseillez pour commencer? Et enfin, ça sert à rien de conseiller des trucs où bah encore une fois tu dois mettre 3 tomes pour rentrer dedans,
ouais.
Ou des trucs qui vont faire 25 volumes, ça fait peur tout de suite en fait. Alors qu'un one shot, ben peu importe la personne. Elle peut se laisser tenter par un one shot. Ah ben ok. Bah,
ça engage à rien.
Ça engage à rien. Bon bah ça ok, ça va. Je vais le lire en 1 heure, en 2 heures, ok. Et du coup, depuis qu'on a la boutique, on a fait rentrer plein de gens, en tout cas commencer plein de gens le manga par des one shots et okay. plein de gens ont adhéré via ça quoi. Okay. Ils sont revenus en disant bah franchement cette histoire m'a trop touché, j'aimerais autre chose. OK, on part sur autre truc et au final ils se lancent dans le manga
en acquisition
quoi.
Client.
C'est ça exactement. Donc d'un point de vue commerce, tu vois, le one shot c'est super. Non mais en vrai c'est ça peut toucher même du coup des personnes qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément envie de rentrer là-dedans dans cet univers par la grande porte de
et puis aussi alors encore une fois, je sais pas mais c'est peut-être une réalité qu'il y a que dans ma tête mais la plupart des séries un peu longues, en fait, en one shot, tu trouves pas forcément de shonen.
Non, c'est ah mais on m'en demande des fois et à chaque fois je suis un peu paumé, je t'avoue.
C'est ça. Et en fait, tu vois, les shonen, ils sont un peu la pas la cause, mais ils répondent à certains stéréotypes que les gens ont du manga, tu vois. La baston, le machin, etc. Alors que quand tu proposes un one shot, généralement, tu proposes une idée, tu vois. Tu proposes un message.
Complètement.
Et c'est ça qui est fort.
Et tu c'est souvent des histoires et ça. Il y a quand même beaucoup de tranches de vie, ça peut être bah enfin après il y a toutes sortes d'histoires hein, ça peut être de l'horreur, ça peut être de l'ASF, ça peut être tout ça. Mais en tout cas, c'est des histoires où quand tu les décris, les gens se disent "Ah oui, OK, d'accord." Alors moi je pensais qu'il y avait des pouvoirs, je pensais qu'il y avait voilà, tu vois, genre ils font un peu ouais comme tu dis l'idée erronée du bah un shonen un peu classique.
Le Neketsu mais t'es méchant.
Qui si t'aimes pas trop l'esthétique, on va dire manga entre guillemets, si t'aimes pas trop l'esthétique et que t'aimes pas trop les pouvoirs et les trucs un peu surnaturels, peut te repousser complètement et te dire oula, c'est quoi ce truc un peu flashy qui a l'air de partir dans tous les sens quoi. Là bah non, il y a des choses très très calmes.
En fait, ça fait la transition.
Complètement.
Parce que vas-y. On a tous les deux fait notre liste un peu de one shot qu'on aimait bien et il y en a un qui répond à cet exact opposé qui est hyper contemplatif.
Qui est fait encore une fois par quelqu'un qui fait beaucoup de one shots et qui est beaucoup connu pour ses one shots. C'est pas celui, bah il est connu évidemment mais c'est pas celui qui l'a fait connaître mais c'est Le Gourmet Solitaire de Jiro Taniguchi. On était un peu obligé de parler de Taniguchi en vrai parce que c'est un peu un des boss du one shot et c'est un peu un des boss de justement je parlais de ceux qui ne sont pas forcément manga de base. Ils aiment Taniguchi généralement, même les gens qui sont un peu allergiques au manga.
Bah le Sommet des Dieux qu'il a également dessiné, Sommet il a pas dieux, scénarisé mais qui a dessiné.
Qu'il a dessiné qui est magnifique, bah Quartier lointain qui a cartonné, Le Journal de mon père tout ça. Et Le Gourmet Solitaire a eu beaucoup de succès aussi, mais c'est vrai que du coup, quand j'ai dû en choisir un, je suis parti sur Le Gourmet Solitaire et du coup, tu m'as dit en arrivant
et
que t'étais parti sur Le Gourmet Solitaire aussi.
Comment est-ce que tu résumes Le Gourmet Solitaire? Parce que c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est une histoire qui raconte rien.
Ah, rien du tout. Vraiment, il y a rien du tout. C'est un.
Et pourtant, c'est trop bien.
Ah, c'est trop bien. Enfin, moi, je sais que il y a une préface avant, mais je vais déjà raconter l'histoire.
Vas-y.
On suit un commercial qui a des rendez-vous dans Tokyo et dans les alentours de Tokyo.
C'est ça.
Et on le suit à chaque fois à la fin de ses rendez-vous. Donc il sort de son rendez-vous et il est midi et demi, il est 13h, il faut manger. Et du coup, il va se balader et trouver des petits restos.
Une échoppe.
Une échoppe, ouais, exactement. Un petit boui-boui. Et se laisser porter par ce que le boui-boui propose, le plat du jour. On le voit déguster son plat et repartir.
C'est ça.
Tout simplement.
Mais vraiment, c'est ça, c'est il arrive. Je pourrais avoir du riz peut-être. Ah, nous n'avons plus de riz. Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre des haricots.
Les retournements de situation, c'est trop ça. Oh, il y a des moments. Ah, bah, je vais prendre ce plat-là. Ah, on a plus ce plat. Ah, bah, putain, je voulais prendre ce plat-là. Bon, bah, du coup, sur quoi je vais partir? Et toi, t'es là en tant que lecteur, mais purée, sur quoi tu vas partir? C'est pas possible.
Et en vrai, je trouve que c'est. Si t'as une envie d'aller au Japon, ce manga-là te fracasse ton envie d'aller au Japon et la multiplie par 10.
Ah, c'est terrible. C'est terrible. Non. Ça te fait saliver. Enfin, franchement, tous les plats sont parfaitement dessinés. Tout est hyper précis. T'es là,
détaillé.
Quand ça arrive, tu le vois.
Ah,
tu le ressens, le plat.
C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois souvent les gens qui ont le manga. Bah, les pages, elles sont mâchées. Pas du tout. Personne fait ça.
Mais ouais, pour le coup, ça te donne faim. C'est un truc de fou, quoi. Et il y a une préface. Alors, je sais pas de qui elle est exactement. Où avant de lire le manga, du coup, j'avais lu la préface et qui disait le gourmet solitaire, c'est comme un bon vin. Si tu le lis d'une traite, comme si tu bois ton vin cul sec, tu vas pas du tout ressentir les subtilités. Ouais. Le gourmet solitaire, il savoure. Ça, page par page, il faut les apprécier, aller trouver chaque petite note de truc. Du coup, j'ai lu le manga de cette manière-là un peu, tu vois. En me disant, au début, je me disais, mais comment tu savoures un manga?
Bah, c'est ça, c'est, en fait, comme c'est découpé en plein de petits repas.
Ouais.
Bah, moi, je faisais un ou deux repas par soir.
Ouais, c'est... faudrait pas grossir non plus, c'est déjà bien. Non, mais clairement, c'est, et puis c'est des pages de, je sais pas, t'as 4-5 pages de chapitres.
Oui, oui, non,
franchement,
mais vraiment,
même
y a,
pas.
Hein. En même temps, il n'y a pas de...
Il n'y a rien d'autre à dire.
Tiens, avant, il y avait une échoppe à laquelle j'aimais bien aller. Ah, elle a été remplacée. Allons voir. Oh non, c'est bruyant. Je change.
C'est tellement ça. Ah non, mais c'est terrible. Et pourtant, qu'est-ce que c'est kiffant.
Enfin, c'est trop bien.
Vraiment. Et là, vraiment, Aude a... Il a fait aussi... j'hésitais avec le attendez, donc le gourmet solitaire et un homme qui marche. Et un homme qui marche, c'est vraiment un gars qui se promène. Il y a presque pas de parole. Tu le vois, il déambule dans les rues avec son chien. Ah, les enfants ont fait tomber un ballon dans l'arbre. Et bah, je vais leur chercher leur ballon, tu vois. Et t'es trop bien quand tu dis ça. Enfin, genre, c'est, en fait, c'est un baume au cœur. C'est tellement calme, c'est tellement
contemplatif
doux,
de ouf.
Contemplatif de ouf. C'est.
Tu mets ça sur un petit fond de musique, genre à Ghibli ou quelque chose comme ça.
Ah mais c'est exactement. Tu te mets un petit fond de musique un peu douce et c'est terminé quoi.
Enfin, genre de musique qui a Tsukimi.
Exactement. La playlist Tsukimi est parfaite pour lire le gourmet solitaire.
Ton petit thé,
C'est ce que je conseille en fait. Tu prends un thé, un cookie, le gourmet solitaire, tu te poses en haut, t'as la playlist. Tu vis un moment, une après-midi, tu ressors, t'es apaisé comme jamais.
Oui, c'est ça, c'est mieux qu'un salon de massage. Il y a pas de.
Clairement.
D'ailleurs, tu proposes bientôt un salon de massage.
À réfléchir, ouais. Un gourmet solitaire acheté, un massage offert.
Waouh. Tu vas faire un petit, il y a une école de, les écoles de kiné, des fois, elles proposent des trucs de massage gratuits.
Ah, ouais, ah bah, putain, bah.
Tu vas les faire venir.
Exactement. Les étudiants, là. Mais ouais, non, pour le coup, enfin, c'est, et puis vraiment, une ode à la, aux petites choses simples de la vie, en fait. La bouffe,
vois,
se promener.
Encore une fois, ça a tellement pas sa place sur une histoire longue. Oh mais tu te ferais chier quand même au bout d'un moment.
Trois tomes, le truc est fini dans le placard, tu les revends direct.
Ouais, t'as même fait les kebabs du coin, tu vois.
Non mais clairement, il y a, enfin, c'est des concepts qui peuvent pas marcher sur le long terme.
Exactement.
Du tout, mais qui ont tellement de place dans le court terme et qui encore une fois sont tellement intéressants. Donc heureusement que.
Puis c'est en dessin, c'est précis, tu vois.
Ah c'est complètement, bah le gourmet solitaire encore
peu
une fois.
Peu de trame.
Ouais.
Mais par contre, du line art très travaillé, quoi.
Ah ouais, ouais, c'est vraiment les aliments, tu les ressens, quoi. Tu les ressens, tu vois ce qui a l'air chaud, ce qui a l'air froid, c'est.
Et puis, comme c'est un vieux livre, c'est je sais pas, il y a ce truc du vieux papier un peu, généralement, alors je sais pas comment ton édition ici, mais l'édition chez moi, le papier est un peu jauni, tu vois,
ah ouais,
il y a un peu ce truc.
C'est le, bah alors je sais pas non plus où est-ce qu'elle t'a, mais du coup, ils en ont sorti plusieurs, ils en ont sorti une maintenant cartonnée et une
en gros,
plus...
c'est, moi, celui que j'ai chez moi, c'est celui d'un pote.
Okay.
Que son père lisait, tu
ah
vois.
Ah ouais.
Et
alors,
du coup, c'est vraiment le truc qui a un petit bout de scotch sur le côté pour éviter que la jaquette elle parte. Quoi.
Ah ouais, il a vécu,
exactement. Ok, donc le gourmet solitaire.
Ouais, le gourmet solitaire. Et du coup, Jiro Taniguchi, de manière générale, a fait beaucoup de one shot et ils sont prêts.
C'est exactement ce que je te disais. Hein. Quand tu vas sur Sens Critique et que tu mets top one shot,
ah ouais,
je sais pas, genre un sur deux, c'est Jiro Taniguchi.
Ça m'étonne pas.
Ça fait beaucoup.
Ça m'étonne pas. Il y en a un aussi qui fait dont lequel je voulais parler aussi,
ouais,
que je te disais, et qui fait beaucoup de one, qui a fait aussi beaucoup de one shot. Il est pas spécialement connu pour ses one shots, mais c'est Inyo Asano,
ouais,
qui est du coup très connu pour Bonnie Poon Poon,
ouais,
et sa série aussi Dead Demon
c'est le Yu-Gi-Oh.
Exactement. Non ouais, Inyo Asano a fait pas mal de one shots, donc qui sont aussi connus hein, pour le coup, mais que j'adore, et notamment Solanine du coup, qui est un manga où tu suis deux jeunes adultes, un couple de jeunes adultes qui sont un peu paumés dans la vie. Ils vivent de petits boulots et tu sens clairement qu'ils savent pas trop où ils vont. Lui, il fait de la musique dans un groupe avec ses potes et il a un rêve du coup, ce serait qu'un jour ça perce et qu'il passe à la radio et tout ça. Et je n'en dirai pas plus parce qu'il faut vraiment le lire. C'est...
Attends, là, il s'est rien passé pour l'instant.
Il s'est rien passé.
Okay.
Donc, ça a l'air d'être une ode à la vie toute tranquille.
Mais attends, c'est Inyo Asano.
C'est Inyo Asano. Donc, voilà, j'en dirai rien de plus. Mais impressionnant.
Okay.
Impressionnant. L'identification déjà que tu te fais des personnages parce que il a une manière. Inyo Asano, c'est celui qui arrive le mieux, je trouve, à faire ressentir la nostalgie, le côté un peu déprimant. De la vie où les choses n'ont
même
pas trop
vide,
de saveur. Ouais, le vide, tu vois, genre enfin les comme quand la vie n'a plus trop de goût, tu
ouais.
vois, que t'es un peu triste, un peu déprimé, mais il le retranscrit, mais c'est terrible quoi. C'est terrible, c'est palpable, enfin
c'est comme si tu regardais ce que t'étais loin de ce que tu vivais. Je sais pas comment expliquer.
Ah, mais c'est une analyse un peu de c'est pas de ces moments qu'on a tous vécu, ces moments-là, tu vois, ou d'errance un peu. D'ailleurs, il a un one shot qui s'appelle Errance. Okay. Où tu suis un mangaka qui vient de finir une série qui a eu un peu de succès, de 15-20 volumes, et donc son éditeur le pousse à enchaîner tout de suite, vu qu'il est sur la vibe du succès, il faut surfer dessus. Mais lui, le truc, c'est qu'il a plus d'idées, quoi. Il a pas d'idées et il a pas envie de faire un truc qui lui plaît pas. Donc, il erre. Il erre à essayer de trouver des idées, à essayer de se lancer dedans, mais il est déprimé. Ouais. Il a une petite fanbase qui le réclame, donc ça lui met une petite pression, mais d'un autre côté, il a pas envie de se lancer dedans. Mais c'est exactement ça, en fait. L'errance, quand tu erres dans la vie, tu marches à côté de...
Et c'est un one-shot aussi, celui-là?
One-shot aussi. Ouais, one-shot aussi. Pareil, un peu dur, un peu déprimant.
Ouais, de toute façon, Inyu Asano est pas connu pour faire les trucs non, les plus gays et plus drôles du...
Non, non, complètement. Mais qu'est-ce que c'est impactant? Ouais. Enfin, t'en ressors, l'œuvre, elle te marque, quoi. C'est, t'en ressors avec un goût amer. Mais cette amertume, tu la retrouves, je trouve, chez presque personne d'autre. Mm. À ce point-là.
Ouais. Justement, un peu dans le même style, je t'en avais parlé, mais c'était le, qui est pas un one shot, qui est en deux tomes, le péché originel de ta copie.
De ta copie. Ah ouais.
Putain. Trop bien. C'est, en fait, il y a un peu cette vibe Bonne Nuit Poun Poun, où t'as ce personnage qui sort du réel, donc là, dans Bonne Nuit Poun Poun, c'est Poun Poun.
Ouais,
je sais pas pourquoi il a une tête de canard, enfin bref.
Il y a que lui qui est comme ça, mais tout va bien, ouais.
Et
okay.
Tout va bien. Et là, dans le péché originel de ta copie, t'as ta copie qui est un petit alien qui débarque sur Terre pour distribuer du bonheur, hein. Concrètement, c'est vraiment le.
De la planète fun. Happy, quand même, hein. Donc,
la planète Happy, tu vois, donc, tu t'es dit. Happy, ça veut dire content en anglais, hein, pour ceux qui l'ont pas.
Beaucoup te diront merci, là.
Voilà. Et il arrive et rencontre une petite fille qui a concrètement une vie de merde.
Oh bah purée, ouais, c'est dur de faire pire. J'ai même mon frère avait eu un peu du mal à accrocher parce qu'il trouvait que c'était too much.
Ouais.
Genre il disait mais genre il y a pas des adultes qui voient à quel point elle vit une vie de d'horreur quoi. Les profs ne font rien alors qu'elle se fait harceler. Elle a vraiment une vie horrible.
Exactement. Et en fait moi ce que j'ai trouvé fort dans cette histoire relativement courte puisqu'elle est en deux tomes, c'est que t'arrives, t'es présenté à une personne qui est horrible. Donc tu te dis en fait les gens qui la bully ils sont horribles, sauf que tu te rends compte que les gens qui la bully ils ont aussi une vie horrible, du coup tu les comprends un peu mieux, et à la fin la meuf pour qui t'avais beaucoup d'empathie au début, qui est une petite enfant avec une tête toute ronde, toute mignonne et tout, elle dit clairement à un mec, suicide-toi pour moi, genre meurs pour moi, et là je me suis dit, mais elle est horrible, et tout le monde est horrible en fait.
Ah mais c'est terrible, c'est terrible. Ta copie m'a beaucoup fait penser, alors je sais pas si c'est inspiré ou non, mais justement la manière de l'auteur de faire ta copie m'a beaucoup fait penser à Fujimoto justement, dans cette capacité à te faire croire qu'on va aller dans d'un côté, dans un endroit, que la ligne est toute tracée, t'as l'impression que tu sais déjà le manga que tu vas lire, et en fait il part dans tous les sens et il te retourne complètement le truc, et à la fin t'es là, ah ouais. Ok, mais je m'attendais pas du tout à lire ça.
Parce que dans ta copie, le seul qui est à peu près appréciable, et pourtant il a une vie de merde aussi, c'est le petit garçon, je trouve.
Ouais.
Parce que c'est le seul qui fait pas des dingueries.
Non, ouais, clairement.
Et concrètement, on lui demande de mourir, quoi. Là, c'est horrible.
C'est terrible.
Mais en plus, tu vois, ça c'est un truc qui est très fort et qui se fait souvent. Dans le manga, je trouve que ça se fait plus que dans notre médium. C'est d'aborder des sujets qui sont très durs et que les enfants, ça soit les personnages qui subissent ces sujets-là. Tu vois, comme là dans le péché originel de ta copie. Ouais. Et le fait que ça soit des enfants, tu te dis, mais.
Bah, c'est, ça te touche encore plus, quoi. Enfin, vraiment, c'est
ils sont
terrible.
Impuissants, tu vois.
C'est terrible. Bah, au début, tu commences ta copie, c'est dur à lire, hein. Ouais. Tu la vois vraiment douiller, tenter de se suicider.
Tout le monde qui écrit sur sa table en mode qui la bouli, qui la frappe.
Crève. Enfin, elle a vraiment une vie atroce, quoi. Et quand tu vois ça, ça te déchire le cœur, en fait, que cette petite enfant qui est toute mignonne, qui vit l'enfer, forcément, ça te touche bien plus que. Ouais, il y a les personnes âgées aussi qui touchent. Les personnes âgées, ça peut pas dans ta copie, mais je veux dire, les enfants
les personnes
touchent
âgées,
directement dans le cœur, mais les papis mamies peuvent toucher aussi directement dans le cœur.
T'as un exemple?
Là, comme ça, je vais en trouver un.
Ok.
Je vais en trouver un, mais ouais, ça c'est. En fait, t'as l'impression que c'est le côté fragilité un peu.
C'est ça. Vulnérabilité
qui fait que ça touche directement dans le cœur.
Je suis en train de me dire que heureusement qu'on a parlé de Girotin et Gucci parce que sinon on enchaîne que les histoires où t'as envie de.
Clairement, dead, putain, c'est l'enfer.
C'est horrible.
C'est vrai. Et. Et d'ailleurs, je pense que le mine de rien, en vrai, dans un one shot, vu que tu dois faire ressentir une émotion en mode en shot d'émotion, one shot très 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 dur, la tristesse est un bon moyen, je pense, de marquer les esprits forts d'un coup. Et du coup, c'est aussi ça qui fait que il y a aussi beaucoup de one shot tristes qui te restent en tête parce que c'est des trucs qui t'ont marqué, qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait cogiter après en mode putain mais la vie c'est quand même dur la vie.
Ouais, je pense. Est-ce que c'est alors je sais pas, mais est-ce que tu penses que c'est plus facile de véhiculer un sentiment négatif qu'un sentiment positif?
Rapidement,
Est-ce que tu vois?
C'est une bonne question, mais ouais, je pense.
Genre, tu peux capter la douleur de quelqu'un et t'identifier vite à une personne, alors que te dire « Oh, c'est épique, oh, c'est incroyable et tout », faut vraiment que tu sois attaché au personnage depuis longtemps pour te dire « Ah, ce que ce personnage a fait pour lui, c'est trop cool ».
Ouais, complètement. Et puis, tu vois, ce qui est trop souvent très fort dans les shonen, c'est que Neketsu-esque, c'est les moments où les héros qui sont gentils et tout machin pètent un câble. Mais du coup, il faut l'avoir vu pendant longtemps, voir qu'il pète pas un câble, on va dire, facilement. Et du coup, quand tu lui mets un drame et que tu le vois sortir de ses cons et devenir complètement s'énerver et d'avoir une énergie de fou, t'as du background de c'est assez rare, donc là c'est énorme,
c'est
tu vois.
Et dans One Piece il y a un truc que je kiffe trop, mais je pense que c'est impossible à faire, très dur sur un one shot, c'est le sens du sacrifice des personnages pour Luffy, Zoro et Kuma, Jinbe quand il revient, Sanji quand il va au mariage, qui se dit je vais au mariage et tout. Et tu vois, moi à chaque fois, il y a une vidéo du Mon Corvo justement sur qui faisait l'analyse du retour de Jinbe.
Ouais.
Ils ont fait un montage justement avec Zoro, tu vois, la musique et tout. J'avais des frissons de malade. Les sacrifices, je le fais parce que ce sera le roi du parce que c'est le fils, ce sera le roi des pirates. Et il y a cette phrase de Mihawk en mode t'as mis ton ambition de côté.
Pour
un autre. Ouais. Et là, tiens, ça.
C'est énorme.
C'est ouf. C'est ouf.
Encore une fois, du coup, le Zoro, t'as appris à le connaître. On te l'a développé et tout machin. Donc, en fait, tu sais ce que ça lui coûte un peu et qu'il ferait pas ça pour personne, en
Exactement.
Fait.
Exactement. Et donc, plus difficile à mettre en place sur un autre, j'imagine possible, mais.
Ouais. Mais en vrai, de vrai, j'ai des thrillers. Des mangas juste vraiment d'action comme ça, en vrai j'ai pas trop d'exemples en vrai. C'est de l'horreur beaucoup aussi, parce que de l'horreur c'est assez, je pense, assez facile de l'instaurer rapidement si tu plonges directement le lecteur dans un climat un peu dark, compliqué et tout. Je pense que tu peux assez faire ressentir la peur assez facilement et rapidement. Mais des choses épiques, j'en ai pas mille en tête.
Épique, yes. Je te propose qu'on bascule sur un autre thème. Je sais pas si on va voir sur quoi on va pouvoir argumenter là-dessus. Enfin, moi, j'ai quand même un petit argument, mais qui sont les one-shots de suite.
Ok.
Tu vois, en mode, je vais en prendre un, peut-être un des plus récents, sur une grosse série connue, le one-shot sur Minato.
Ok.
T'en penses quoi?
Le one-shot sur Minato. Alors, moi, j'en pense quoi? Déjà, j'aurais voté pour quelqu'un d'autre que Minato. J'ai voté pour quelqu'un d'autre que Minato. Moi, j'ai voté Shikamaru. Alors, mon argument pour dire qu'on n'aurait pas dû voter sur Minato est nul parce que Shikamaru, on connaît aussi son background. Mais j'étais un peu deg que ça soit sur Minato. Pour dire, je l'ai même pas lu.
Ah ouais?
Ouais. Je l'ai même pas lu. Mon frère l'a lu. Il a bien kiffé, mais bon, voilà.
Moi, je trouvais ça un peu vide.
Ouais. C'est quoi? C'est l'invention du Sharingan et
du Rasengan,
Du Rasengan, pardon. Ouais, tu vois, il l'a lu et j'étais là, je me suis pas jeté dessus, quoi. Alors que, pourtant, je kiffe Naruto de fou, quoi, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on se focus sur Minato. Après, bon.
Et c'est quoi ton argument pour Shikamaru? Parce que je le comprends, moi, mais.
Juste que j'aime trop Shikamaru. Mais alors qu'on le connaît, en vrai. Tu vois, Minato, j'étais deck parce que je m'étais là, mais on le connaît, Minato. Pourquoi faire un one shot dessus, tu vois? Et moi, j'ai voté Shikamaru alors qu'on le connaît, Shikamaru. Il y avait pas
de
one shot
dessus. Ouais, mais tu vois, tu peux, je sais pas, Shikamaru, il a toujours eu un prisme différent. Alors que Minato, il est un peu, j'ai ma trésor, mais il est plat, tu vois.
Mais non, mais je vois ce que tu veux dire.
Badass de ouf, mais il est très.
C'est un peu le stéréotype du badass, épique, héroïque.
Que Shikamaru, t'as ce truc où il était en mode, il avait un recul sur la vie tout petit, à se dire, mais pourquoi en fait les gens ils sont méchants avec Naruto, il a rien fait. Je considère pas spécialement, mais pourquoi on est méchant avec lui, tu vois?
Il est trop intéressant, Shikamaru. Est vraiment trop intéressant.
C'est un personnage qui est complexe, et puis qui réfléchit. Et t'aurais pu faire, on aurait pu avoir un one shot. Bah après, je dis ça, je vais le, enfin, bref. Mais un truc un peu contemplatif où justement tu le vois marcher dans Konoha avec sa petite clope à la main, tu vois, se rappeler les souvenirs avec Asuna, tu vois, genre,
ouais,
je sais
ouais.
pas, un petit un truc
ouais, il aurait
un
fallu
peu comme
qu'il,
ça,
pour la clope, il aurait fallu qu'il se souvienne d'Azuma et tout machin. Mais ouais, ouais, complètement, tu, sa manière de réfléchir, son côté, je m'en foutiste des choses et tout machin, ça aurait été trop agréable à lire en un chapitre. Et comme tu dis, le rythme aurait été bien différent. Minato, il a un peu le même rythme que Naruto, tu vois,
ouais,
c'est un peu
ça.
Le, bah, c'est son daron, quoi, donc.
Et bon, il fait raser.
Voilà. Et j'ai vu un peu dans les notes et tout, il y avait aussi le père de Kakashi,
ouais.
qui était très haut.
Oh, de
ça
ouf.
Aurait été trop intéressant.
Ça aurait été trop bien.
Ça aurait été trop intéressant. Bien. Ça aurait été bien mieux, je trouve. Mais du coup, bah, je peux pas trop t'en parler pour le coup. Je l'ai pas lu. Mais t'avais kiffé, ouais.
J'ai justement pas tant, enfin, parce que justement le Minato, bon, bref. Si Kana, vous écoutez ça, je veux quand même bien avoir une dédicace avec l'auteur quand il vient. Ouais. Mais
il peut passer à Tsukimi, prendre un thé, je sais
ouais,
pas. Voilà.
Une autre suite, et pour le coup que j'ai trouvé trop intéressante parce qu'elle avait vraiment une proposition complètement différente du manga d'origine, c'est le one-shot qui avait été fait sur Death Note.
Ah, Death Note Short Stories.
Tu l'as lu ?
Ouais, je l'ai lu, ouais.
Mais moi, je trouve que c'est trop intelligent.
Ah ouais, c'était trop bien.
Parce que la série parle d'une manière d'exploiter le one-shot. On connaît tous ce concept un peu philosophique du bien et du mal qui est vachement frappé dans Death Note, qui est vachement travaillé. Et en fait... Quand t'arrives et que tu lis le one shot, mais t'es tellement loin de tout ça. Le mec, il s'en bat les couilles de la justice. Il veut juste de la moularde. Il s'en bat les couilles.
Il fait du flou, basta. Non, mais c'est encore une fois prendre son concept, en faire quelque chose de différent et de hyper intéressant, hyper actuel. C'était trop bien.
C'était trop
et
smart.
En plus, enfin. Non seulement ça crée le plaisir ultime pour tous les fans parce que retrouver les deux auteurs sur une histoire Death Note qui n'est pas Death Note, enfin qui n'est pas avec
une
Light
forcée,
qui, ouais voilà exactement ou une, encore une fois creuser un personnage bah justement un peu ce qu'il a fait avec Minato quoi tu vois creuser un personnage que tu connais
ouais,
un peu
spin-off ouais voilà
spin-off sur elle tu vois genre ça aurait été le truc qui peut easy
sur Levi un spin-off bref
ouais. D'ailleurs oui c'est vrai bah en plus ouais ça peut, c'est d'actu ouais. Du coup je sais pas si t'as vu ouais mais il va écrire un chapitre. Il y a un chapitre qui va bientôt sortir sur Levi là.
C'est un enfer. Tu sais, dès qu'un mec est bien apprécié, ça part en spin-off.
C'est terrible. Bah, c'est pareil, tu vois. Un peu dommage que ça soit sur Levi. J'ai l'impression que Levi, on a un peu tout raconté sur lui.
Ouais, c'est ça.
Bon, c'est... après, je dis oui. Hein. Ah, vraiment, Attaque des Titans.
Alors que sur Sacha, 30 pages de pommes de terre. Paf.
Ah ouais, hyper intéressant. La chasse avec dans son village là. Non, mais ouais, bon, un peu dommage que ça soit sur Levi. Mais apparemment, ça arrive. Il est dessus et tout, machin. Donc, mais Death Note Short Stories, trop bien. Trop bien. J'avais trop kiffé.
Mais c'est un banger. Est-ce que t'as d'autres petits one-shots que t'as bien kiffé? Moi, j'en ai encore quelques-uns sur ma liste.
Ben,
mais...
ouais, je vais peut-être citer un one-shot d'horreur,
vas-y.
En vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de one-shots d'horreur. Alors, quand on dit one-shot horreur, beaucoup pensent à Junji Ito, du coup, qui est un peu le big boss de l'horreur et qui a énormément de one-shots à son actif et beaucoup de classiques. Mais moi, je vais plus parler d'un one-shot qui est sorti assez récemment chez Glénat, enfin, en tout cas, qui a été édité récemment. Mais qui était sorti il y a un petit moment au Japon, qui s'appelle La Dame de la Chambre Close,
okay.
par Minetaro Mochizuki, et c'est celui qui avait fait Dragon Head. Dragon Head, c'était son œuvre qui avait eu un peu de succès, qui était déjà un peu horrifique. Et La Dame de la Chambre Close, ça reprend une sorte de légende urbaine qui dit que si tu entends toquer à la porte à côté de chez toi,
ouais.
et que c'est une grande dame aux cheveux longs noirs, hein, avec un long impair et des sacs qui toquent, il faut surtout pas lui ouvrir. Et l'histoire commence,
j'aime pas, ça fait genre la dame en fou.
Ouais, c'est exactement ça, mais genre, ça commence, t'as un lycéen, et ça commence, ça sonne à côté, et il ouvre, et il est d'un merde, quoi. Elle va le harceler, et tout, machin. C'est trop bien fait, c'est hyper bien mis en scène, le mécanisme de la peur est super bien fait, il y a des mises en scène où t'as presque des jumpscares. Tu sais, je parlais des récits d'Obana où t'avais un jumpscare.
Ouais.
Et ben, il y a vraiment très peu d'œuvres qui m'ont fait ça. Et j'en ai eu un dans La Dame de la Chambre Close où il y a un moment où tu tournes les pages en mode oulala, ça va me péter au visage, quoi. Tu vois, genre, t'y vas tout doucement. Et ouais, j'ai trop kiffé. Hyper efficace, ça se lit pareil d'une traite. Voilà. Donc ça c'est un peu mon coup de cœur one shot horreur.
OK. Horror. OK, stylé. Moi je pense que j'ai fait après le tour de ce que j'avais à parler, j'avais Poison City de Tsutsui, qui je trouve est très cool parce que c'est en fait c'est ça aussi qui est cool dans les one shots, c'est que c'est un format qui peut aussi permettre de dénoncer.
C'est
et ce manga il le fait très bien, donc ça court vrai, c'est vraiment une déclaration de guerre à tout ce qui est censure au Japon
et en même temps avec un système qui est un peu déconnant enfin c'est mis en lumière. Je connaissais pas trop exactement enfin tout ce
truc de mettre un
comment ça se passe exactement là-bas et tout, et c'était hyper intéressant et tu sens que des fois c'est hyper injuste quoi,
enfin, ouais, c'est
vraiment
ça.
Poison City est vraiment cool, et en plus Poison City m'a vraiment surpris parce que quand tu prends la couverture avec le titre et la jaquette où tu le vois avec son masque, son casque,
t'as l'impression que ça va être un truc d'action
mais complètement
en fait t'as l'impression que ça va être tout au new view
complètement, tu as l'impression que ça va être un truc de fin du monde avec une sorte de pompier qui va se battre contre les flammes et tout.
Pas du tout. C'est un auteur de manga.
Voilà.
C'est un auteur de manga.
Tu le suis.
Et je trouve que c'est très cool parce qu'il y a deux personnes. Enfin, en gros, t'as ce personnage-là principal qui est en mode, il va vouloir se battre, etc. Mm. Jusqu'à rencontrer justement un autre auteur de manga qui avait subi les courroux de la censure et qui était un très grand auteur, mais à cause de la censure, il avait disparu. Et en fait, il va se rendre compte que le mec qui l'idolâtrait un peu et tout, il a arrêté de se battre et que...
Ouais, il a abandonné, quoi.
Il a perdu envie, tu vois. Et lui, il se dit, je vais quand même essayer. Et finalement, c'est compliqué, quoi.
Complètement.
Mais c'est une histoire qui est très cool aussi. Et finalement, j'avais Tokyo Alien Bro, qui est pas un one-shot, qui est en 3 tomes.
Ouais.
Mais voilà.
C'est une histoire courte. Ah, ça passe.
Et bonne vibe.
Ça passe. Mais ouais, tu vois, par exemple, Tokyo Alien Bros, bonne vibe. Là, pour le coup, l'auteur arrive assez rapidement à te faire rire et à
Même si le tome 3, un peu plus.
Un peu plus.
Moi, j'avais moins aimé.
Le 3. T'as moins aimé le. Alors, moi, j'ai bien aimé le fait que justement, je m'attendais pas à un dénouement comme ça.
Je suis d'accord.
Et le fait qu'on aille dans un dénouement un peu.
Mais c'est pas ce que je m'attendais à lire, tu vois. Et j'étais bien, genre, je sais pas, j'aime bien le truc, tu tournes les pages, t'es content, tu vois.
Bah, surtout, Tokyo Alien Bros te met vraiment dans ce mood-là, quoi.
Ah oui.
Tu as l'impression vraiment de savoir exactement où tu vas. J'aime bien, moi, pour le coup, justement, quand je sais exactement où je vais et que l'auteur me dit, mais non, je vais t'emmener ailleurs.
T'inquiète pas, je vais
te surprendre.
Ok,
donc,
trop fort.
Donc voilà.
Et ça fait déjà 46 minutes qu'on tourne.
Ok.
Ce que je te propose, c'est qu'on passe à Taroko et après je parlerai de Beethoven Wars.
Yeah, of course. Alors, Maroko, ce mois-ci. Donc j'ai mis Yann, ceux qui suivent notre Insta, abonnez-vous s'il vous plaît.
Tsukimi.manga.
Ouais. Sur Tsukimi.manga, on a parlé de Yann qui est vraiment super. Donc ça, vous pourrez le voir sur Insta. Mais là, j'ai envie de parler d'un autre one-shot qui s'appelle La forêt magique de Oshigahara.
Ok.
Qui fait partie des œuvres, tu sais, publiées par Le Renard Doré. Enfin, la nouvelle collection de Rue de Sèvres, Le Renard Doré. Donc, ça fait partie de ces 3 œuvres. Et donc, de Iwae Isae Iwaoka.
Je comprends que t'aies besoin de tricher.
Désolé, mais Isae Iwaoka, qui avait fait, qui est une autrice et qui avait fait La Cité Saturne.
Ok.
Et Cité Saturne qui était aussi excellent en 7 tomes. Et donc là, on suit, donc c'est dans la ville de Oshigahara, il y a une forêt un peu magique où tous les êtres, genre les animaux vont parler. Les plantes, la nature va prendre vie et avoir une âme, et pareil, vont être représentés par un petit bonhomme ou quoi, et qui vont parler aussi. Les objets vont prendre vie.
Okay.
Tout prend vie en fait dans cette forêt. Et on suit donc, enfin, on suit pas vraiment lui à chaque fois, mais il y a Soichi qui est un garçon qui habite dans une maison dans cette forêt et qui gère un peu tous les esprits des alentours et tout ça.
Un peu le garde forestier.
Ouais, on va dire ça comme ça.
De la forêt magique.
Exactement, de la forêt magique qui s'occupe des amérantes parce que par exemple, ça commence, t'as un coq qui se fait pourchasser par un enfant.
Un coq.
Donc tu le vois.
Rooster Fighter.
Oh yeah, coq de baston. Et du coup, tu le vois, il court, et il rentre dans la forêt.
Ouais.
Page d'après, tu vois ce coq avec petit costard qui commence à parler en mode. C'était. Et en fait, ça commence vraiment juste comme ça. Donc l'autrice te perd en mode. Attends, mais c'est le même coq là? C'est quoi le truc? Et tu suis et t'es là, mais. Il arrive, il voit une fille et un garçon. Il va dire à la fille « Ah, ça va, t'es pas une humaine, j'ai cru que t'étais une humaine. » Et il va dire au garçon « Ah, toi, tu pues l'humain, toi. » Hein ? Enfin, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et elle te le prend pas du tout par la main dès le début. Et c'est chapitre par chapitre qu'elle va expliquer chaque personnage petit à petit et que tout prend forme.
Okay.
Donc en fait, la construction de l'histoire, déjà, elle est incroyable. Enfin, t'es complètement dérouté au début et après t'es fasciné. Et t'as qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Donc voilà.
On sait en combien de tomes ?
C'est 5 tomes. 5 tomes, les éditions sont très belles.
C'est des éditions genre en mode classique petite ou...
Non, non, c'est format un peu plus grand, genre format FMA Perfect.
13€ ou quelque chose comme ça.
Ouais, elle doit être à... Ouais, ça doit être ça. Okay. Ça doit être à peu près 12,95€, je pense. Format ouais, Perfect de FMA et les dessins sont splendides. C'est à la fois hyper féerique, magique, presque enfantin. Et à la fois, ça parle de sujets très durs, parce que, bon, sans trop spoiler, mais t'apprends que le daron du garçon, s'est suicidé en se tranchant la gorge, enfin, tu vois, genre des...
Y a c'est des l'émission trucs... de la joie, hein.
Ouais, non, mais clairement, c'est l'enfer, putain.
Genre, toutes les séries dont on a parlé, une sur deux, il y a quelqu'un qui se suicide.
Ouais, ouais, non, mais c'est... Et même Tokyo Alien Bros, qui remontait un peu le truc, se finit de manière... Ouais, un peu compliqué. Mais ouais, non, pour le coup, ça parle de sujets quand même durs. Les personnages entre eux, le coq par exemple, il a son petit carafon, tu vois, ils ont chacun leur petit caractère, leur petit truc. Enfin, c'est. Il y a une grenouille à un moment qui arrive, qui a perdu sa maman, enfin non, qui a perdu son enfant et qui veut être une maman, et elle lui dit au coq, toi t'as plus ta maman, je peux être ta maman. Ah oh, bah non, pas du tout, t'es pas du tout ma maman, enfin c'est hors question. Enfin, tu sais, ils s'envoient des tacles tous dans cette forêt là, et il y en a même qui sont méchants.
Et il y a une ligne rouge.
Alors en fait t'as plusieurs fils conducteurs. Ouais. Tu vas croiser un personnage et en fait tu vas le revoir un peu plus tard et du coup il y a plusieurs fils conducteurs. Mais je sais pas exactement. Il y a pas un but précis. Je sais pas exactement où elle va aller. Tu vois. Genre ça reste à voir. Mais.
Ok.
Mais j'ai adoré.
Et tu catégorises ça comment?
À la base quand on l'a reçu, je voulais le vendre comme un truc pour enfants. Et en fait, je trouve ça un peu dur pour enfants, que ce soit dans la compréhension du truc ou
que dans
les sujets que ça traite quoi. Donc je catégoriserais ça comme du seinen parce que shonen, ça a rien de trop adolescent.
Et comme type d'histoire,
je dirais une tranche de vie fantastique.
Ok. Ouais. Turn off. Non, ouais, ça me va.
Tu vois, genre.
Je vois le truc, genre, tu vois un peu ton univers s'érouler.
Complètement. Tu vois un peu la vie de ces gens-là, mais tout est féerique. Ouais, c'est ça, c'est ton petit coq. Le petit esprit de la porte, le petit esprit du caillou. qui vivent leur petite vie avec
ça. C'est marrant.
Ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, La forêt magique de Oshigahara, de Iwae, de Isae Iwaoka.
Ok, compliqué. bien vu. Ok, bah je fêterai ça bientôt, je pense.
Très bien.
Là, ça va être un peu pour conclure l'émission, c'est un peu la chronique de fin. Je suis pas souvent invité à des événements presse ou quoi, et va savoir pourquoi, il y a pas longtemps, j'ai reçu une invitation. Tu vois. comme d'habitude, en général, les trucs presse, c'est à Paris, si on n'est pas à Paris, mais ce jour-là, j'allais à Paris.
Okay.
Je me suis dit, bon bah pourquoi pas y aller, tu vois. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'arrive, donc tu vois, moi j'ai ma journée classico-classique sur Paris, machin, tout
c'était
ça.
C'était quand ?
C'était jeudi.
Ok.
Et donc jeudi, on est le 30 avril, donc ça devait être le 24, je sais pas.
Ok. Bon, ouais, donc c'est très récent, c'est là.
Exactement. Et j'arrive le soir, le soir j'abuse, il était 17h30, mais tu vois, genre dans un genre de resto cinéma un peu. C'est-à-dire que tu rentres dans un restaurant, tu descends un étage, deux étages, et t'as un genre de cinéma.
Mm-hmm.
Beau fauteuil et tout. Pas très grande la salle, donc moi je me dis pourquoi j'étais invité tout, je sais toujours pas, mais très cool. Et il commence à expliquer un projet qui s'appelle Beethoven Wars. Et en fait, Beethoven Wars, c'est un orchestre qui le joue, qui est interprété par l'Insula Orchestre, qui est un orchestre de vieils instruments, des instruments anciens, principalement de la corde, mais un gros truc, tu vois, genre je sais pas ils sont combien, mais je dirais ils sont 30, tu vois, dans l'orchestre. Et qui est un vrai bail, tu vois, qui font des gros je sais pas comment on appelle ça, des gros orchestres, des grosses représentations.
Ouais.
Et qui est dirigé par Lorraine Ekibé. Et en fait, elle a été à Human Academy l'année dernière, je crois, à Angoulême. Human Academy, c'est une école de mangaka. Et elle s'est dit, il y a un truc à faire. Tu vois, il y a un truc à faire, je sais pas ce que c'est. En fait, il y avait eu un concours qui avait été organisé justement de one shot ou quoi. Elle en avait lu quelques-uns, elle s'est dit, il y a un truc à faire.
OK.
Et de là, elle s'est dit, je vais prendre les musiques de Beethoven, notamment deux histoires pour lesquelles les musiques ont été écrites, qui sont l'histoire du roi Stéphane et les ruines d'Athènes, qui sont deux vieilles histoires de l'époque où Beethoven il faisait de la musique et tout, qui avaient été
créées. Ah oui, okay, d'accord, ouais,
c'est ça, des vieux trucs.
Okay.
Et je vais prendre les deux histoires, je vais les mixer, et sur ces histoires-là, on va demander à un studio d'animation de venir créer des... C'est pas de l'animation à proprement dit, c'est un mélange de 2D et 3D, mais qui se représenterait plus comme un manga. C'est-à-dire que tu vas case par case. Il y a très peu de mouvements, tu vois, où c'est genre, tu vois une case, en couleur, etc., bien peinte, etc.
Écran.
Voilà, sur un écran. Un peu comme un ciné-concert.
Ok, ouais.
Sauf que chaque planche, enfin, chaque case dure genre 6 à 8 secondes. Tu passes à la case suivante et ça te raconte ton histoire. T'as une voix off au-dessus de ça. Et entre deux, t'as les, t'as les instruments. C'est plus du motion design que de l'animation.
Ok, d'accord. Et quand tu dis que t'as une case, c'est genre t'as une case dans un... enfin c'est ça
non,
prend tout l'écran.
Non, c'est genre un écran complet, c'est une ilu. C'est un okay. En gros, c'est un mélange entre 2D et 3D, c'est-à-dire que les personnages ils vont être en 2D comme on s'attend à ce qu'ils soient.
Ouais.
Le décor ça va être un speed painting.
Ok.
Et entre deux, tu vas avoir des éléments qui vont par exemple la neige qui va voler, etc. Et en fait t'as trois couches, t'as genre le décor, les personnages et les éléments flottants, tu vois.
Mm-hmm.
C'est un peu compliqué à expliquer. L'orchestre se joue. Et moi, ce qui m'a impressionné, parce qu'après, ils nous ont fait voir en réalité virtuelle ce que ça a donné,
ouais.
C'est que les images, donc ça dure à peu près 1h30, sont diffusées sur un écran. La taille de l'écran est de 500 mètres carrés.
500 mètres carrés?
C'est un écran qui fait 10 mètres de haut par 50 mètres de long.
Wow. Je sais pas exactement quelle est la taille des...
Ça fait 220 degrés. En gros, l'écran fait ton globe. En fait, c'est une expérience ultra immersive où tu vois une histoire qui est le mix du roi Stéphane et des ruines d'Athènes. Globalement, en gros, ça raconte une genre de guerre qui se passe sur une planète lointaine, etc. Il y a beaucoup d'humains qui meurent et après, ils vont sur une autre planète. Ils auraient pu repartir en guerre, mais finalement, ils décident que ce soit que les deux dirigeants qui aillent se battre.
Ok.
Et aucun des deux va être victorieux et vont finalement développer un respect mutuel pour chacun et se dire bah il y a peut-être des choses qu'on peut faire ensemble et notamment retourner sur Terre et vont voir la Terre où il y a plus de forme de vie animale, encore végétale etc, mais plus de forme de vie animale et c'est en mode est-ce qu'on va repeupler, est-ce que machin tout ça. Et donc c'est un peu spécial, mais j'ai été choqué du déploiement technique qui avait été mis en place, parce que si tu veux afficher sur un écran de 500 mètres carrés, la résolution d'image, elle doit être monstrueuse. Ça veut dire qu'il nous expliquait, hein, parce que c'est, il y a du budget. Hein. Comme je disais, il y a 3 millions d'euros qui ont été injectés dans ce projet.
Ok.
Sachant qu'il y a un orchestre de 30 personnes professionnelles, qui est un orchestre qui, je pense, est reconnu. T'as ton écran de 500 mètres carrés pour pouvoir diffuser des images sur un tel écran. C'est pas de la 4K. Genre de la 4K, c'est du, je sais plus quoi, les dimensions en pixels, mais c'est du 4000 pixels par 2000 globalement.
Okay.
Là, je crois que c'est du 13000 par 5000. Enfin, c'est genre. Ils ont poussé les machines qu'ils avaient en termes d'ordinateur et tout, parce que tu vois, ça lag du coup quand tu fais du montage avec une telle résolution.
Bah ouais.
À leur limite, tout a été poussé à la limite. Ils ont, je sais. Alors c'est un nombre de projecteurs. Tu vois, on est de Lyon. Ce qu'ils utilisent pour faire des spectacles des lumières.
Ouais.
Globalement, c'est le genre de projecteurs qui sont utilisés pour faire du map mapping, donc diffuser comme ils veulent sur l'écran en 220
ouais,
degrés.
Okay.
Je sais plus combien de projecteurs, mais c'est hallucinant. C'est la toile qu'ils ont créée pour diffuser, elle n'existe pas. Enfin, tu vois.
Parce que j'allais te dire, ils vont où du coup pour diffuser ça?
Enfin, se situe à la scène musicale à Boulogne-Billancourt.
Ok.
Qui a un énorme théâtre. Et le fait que ça fasse du 220 degrés, c'est pas en longueur pure,
mmh.
Et ça permet aussi d'avoir cette longueur-là.
Mais du coup, ils créent l'écran pour ça.
Ils ont créé l'écran pour ça.
Wow.
Qui est une grande toile. Hein.
Oui, non, mais bien sûr, mais en tout cas, faut.
Exactement.
Enfin, faut déjà la disposer d'une manière à ce qu'elle soit incurvée correctement c'est et ça. Tout. Enfin, c'est quand même.
Moi, je me suis posé des questions quand j'étais là-bas, c'est que ça va être diffusé le jeudi 23 mai, le samedi 25 mai et le dimanche 26 mai. Donc j'ai levé ma main pendant la conférence, j'étais en mode mais attendez, vous me parlez d'un projet où il y a tellement de personnes impliquées, ils ont été chercher des animateurs de Jujutsu Kaisen, des Français qui ont travaillé sur Jujutsu Kaisen et tout pour avoir des chara-design décents parce que eux ils s'y connaissent pas tant en manga, tu vois, donc ils
ont besoin d'aller chercher un peu les pontes.
Ouais, ils ont été chercher des vrais studios d'animation et tout, même si c'est pas de l'animation à proprement parler parce que c'est vraiment du motion design plutôt.
Mm-hmm.
Mais ils ont vraiment essayé de faire ça bien et j'aurais dit mais attendez, il y a tout ça et il y a 3 jours de représentation.
Comment ils vont...
C'était en mode dinguerie. Et en fait, ce qu'elle expliquait, ça c'est je pense que les gens de la culture qui sont dans les sphères politiques de la culture le savent, mais il y a un budget qui a été débloqué de 1 milliard d'euros qui s'appelle pour un projet qui s'appelle France 2030, je crois, ou quelque chose comme ça. L'objectif, c'est de faire en sorte que la France en Europe reste première en termes d'innovation sur la création artistique animation. Et donc, sur ce budget de 1 milliard, eux, ils ont récupéré 3 millions parce que projet innovant, en, non seulement par sa complexité, la taille des résolutions, tu vois, d'aller chercher
ça,
des trucs, mais aussi parce que c'est un projet en trois étapes. C'est-à-dire qu'il y a cette première représentation qui va avoir lieu à Boulogne-Billancourt. En 2025, à peu près à la même période au printemps, ce projet va être diffusé dans d'autres salles en France.
Okay.
Mais adapté aussi en fonction de la capacité des salles, parce qu'il n'y aura peut-être pas la place de mettre 500 mètres carrés de toile sur
ouais,
partout.
Complètement.
Et le troisième, l'idée, c'est d'en faire une série en réalité virtuelle.
Waouh.
Ouais, ça, ça fait beaucoup moins.
Ok.
Une autre question que je leur ai posée, c'était, bah écoutez, projet de folie, tu vois. Genre, enfin, faut voir le truc, hein, mais quand t'as tout l'orchestre qui joue et tout... Je jure, t'as...
Parce qu'ils t'ont montré du coup des...
Ils m'ont des images, ils m'ont montré un trailer.
Un trailer?
Ils ont déjà joué le truc en... à blanc, tu vois, pour voir comment ça pouvait rendre et tout. Sans voix.
Okay.
Genre les musiques... Bon, vrai, sans voix. Genre, moi, j'aime bien aussi les orchestres et tout, tu vois.
Ouais,
et
ouais, ouais que... c'est puissant de ouf.
Et la volonté qui est derrière, en gros, c'est de ramener un public plus jeune sur de la musique classique. Et je trouve que ça le fait vraiment bien. Parce que c'est pas non plus un ciné-concert.
Mmh.
Un ciné-concert, tu regardes que l'écran parce qu'il y a toujours un truc qui se passe.
Ouais, bah,
là, comme t'as des plans de 8 secondes, 6 secondes, 8 secondes, mmh. Bah t'as le temps non seulement de regarder ce qui se passe devant toi, de regarder l'orchestre, mais aussi t'as pas que ce qui est devant toi à regarder parce que c'est 220 degrés, donc t'as le temps de, en fait, tu regardes tout sur la largeur et...
Du coup, en fait, 8 secondes, c'est à peu près le temps que...
Que t'as pour... Tu regardes tout l'écran,
ouais.
De gauche à droite, plus tu regardes aussi l'orchestre jouer, t'as le temps d'apprécier.
Okay.
Et il y a vraiment cette volonté. Et donc je me suis dit, mais... Attends, ça c'est une dinguerie, enfin genre... projet comme ça, et je me suis dit, vas-y, les comédies musicales, les orchestres, c'est cher, tu vois. Les comédies musicales, t'as pas un billet en dessous de 40 euros, la plupart du temps. Les orchestres, à part si t'as des trucs, des initiatives très étudiantes qui sont faites, c'est cher. 10 euros le premier prix.
Mais, ah oui, donc en fait le but n'est pas de gagner de l'argent, quoi.
Il y a aucun, le but, c'est vraiment d'être dans cette volonté de France 2030, d'aller sur des projets innovants pour continuer à évoluer artistiquement parlant, et faire en sorte que la France elle garde un positionnement en Europe qui soit hyper haut, et parce qu'il y a la Suède qui est aussi pas mal rival, et je sais plus quel autre pays, enfin bref, sur ces trucs-là. Donc il n'y a pas de... En gros, ils sont à l'équilibre s'ils vendent toute leur place, et avec les aides de ce financement. Sachant que la seconde étape après, ça serait effectivement d'aller diffuser ce spectacle et de faire un tour en Asie.
Ouais.
Et là, peut-être, effectivement, de gagner de l'argent. Mais sur les dispositions en France, ce sera pas le cas. Et à la fin de la séance, ils nous ont mis un casque de verre pour qu'on soit dans la salle et qu'on se rende compte de la taille de l'écran et tout.
Mais c'était impressionnant.
Ouais, ouais, ouais.
Ah ouais.
En gros, pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si tu regardais deux terrains de tennis de face.
Ah ouais, ok.
C'est assez costaud.
C'est délire. C'est ambitieux, comme jamais, hein. Franchement, c'est...
Ambitieux comme jamais.
Puis comme tu dis, du coup, je comprends que ça a été financé parce que ça, en plus, ça regroupe beaucoup de formes d'art, quoi.
Mmh.
Ça regroupe à la fois bah, le côté musical de musique classique, orchestre,
animation,
tout ça, animation, salle de cinéma, donc, enfin, tout est.
Est-ce que je mettrais le trailer, pas le trailer, mais ils avaient fait une genre de, enfin, je sais pas comment on appelle ça, une genre de teaser bande-annonce où tu vois les studios d'animation et tout, tu vois pas trop l'orchestre jouer mais tu vois un peu le reste, et tu vois quelques décors qui ont été faits. Alors moi, je vais être honnête, j'ai pas trop aimé, et je te les montrerai juste après, mais les character design des personnages et tout, je trouve ça un peu trop bateau,
okay.
Un peu trop simpliste et peut-être pas assez travaillé,
okay.
Par contre, les décors, j'étais en la dinguerie.
Ah ouais.
Tu vois, c'est très contemplatif, c'est très des très gros décors et tout.
Et tu disais que ça doit, pendant les 8 secondes, ça bouge un peu quand même, ou ça...
Ça bouge. Genre, s'il y a un vaisseau, il ira de gauche à droite,
okay.
Etc. Mais c'est pas de l'animation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'image du vaisseau et il déplace l'image du vaisseau sur le
fond. Je vois du coup carrément. Ok.
Donc un peu comme ils font des fois les trailers manga.
Ok. Mais en couleur. Ah oui, de manga à papier. Et qu'ils animent pour.
C'est un peu ça. Mais en plus profond, parce qu'en gros, si tu veux, t'as 3 couches. C'est comme si tout au fond t'avais le décor,
ouais.
Que physiquement devant t'avais de la neige qui se déplaçait, et que encore devant t'avais le personnage. Et du coup t'as quand même une impression de profondeur, tu vois.
Je vois carrément.
Donc c'est assez intéressant. Ça
m'a hypé, hein. Franchement.
Bah, et puis c'est pas tant cher. Alors faut faire attention, c'est-à-dire que globalement il y a presque plus de place déjà.
Ok, ouais.
Je pense que dans une semaine, il n'y a plus de place. Déjà, les places à 10 euros, il n'y en a plus. Il ne restait plus que les places à 25. Ça reste ok, ça reste décent.
Bah ouais, pour un truc comme ça, encore une fois, déjà, comme tu dis, voir un orchestre de base.
C'est ça, c'est un orchestre d'instruments anciens. Tu vois, beaucoup de cordes, beaucoup de... Enfin, c'est quoi, tu vois, c'est... la musique, tu la ressens, tu vois.
Putain.
Donc, c'est très, très impressionnant. Et en fait, ouais, c'est... Je trouve que des initiatives comme ça, Bah en fait je l'aurais dit, mais en discussion après la conférence, j'ai discuté un peu avec notamment celle qui faisait un peu tout ce qui était mise en scène, qui vient du théâtre, et je lui disais mais en fait moi je suis totalement touché parce que tu vois, j'écoute pas de musique classique, c'est pas un truc que je fais, mais je suis pas non plus réfractaire à le faire. Et là, ça m'a trop hypé.
C'est, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à, en effet, pas se mettre de la musique classique dans nos oreilles, dans nos AirPods, enfin dans nos écouteurs quand on marche dans la rue, quoi. Mais par contre, quand tu regardes un film ou quand tu regardes un manga ou un animé, je veux dire, ou tout ça, et que t'as un moment avec de la musique classique qui arrive,
bah,
ça te touche tout de suite, tu vois. Enfin, ça devient tout de suite épique, ça devient tout de suite fort, quoi. Donc du coup, un projet dans cette envergure avec avec de la musique classique et tout, waouh, ça,
ouais,
ça a l'air incroyable.
Enfin, vraiment. Et puis le même, l'équipe est au top.
Mais quand tu me dis l'histoire, je me dis, est-ce que et que du coup tu me parles des chara-design et tout machin, je me dis du coup, est-ce que avec un projet de cette envergure, c'est pas un peu dommage d'avoir ce style d'histoire et de chara-design du coup. Enfin, c'est.
Alors,
est-ce qu'il aurait pas fallu raconter
une autre
histoire?
L'histoire a pas l'air mauvaise. Hein. C'est moi qui l'ai mal pitché, mais elle a pas l'air tant. Mais elle est pas, elle casse pas trois pattes à un canard.
Ouais.
Ça, on s'accorde. Mais elle a pas l'air mauvaise du tout. Je trouve que c'est, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un aspect qui est vachement ressentir la musique, voir les décors, tu vois, plus que suivre l'histoire.
Plus,
par contre, bah je te montrerai les, je vais te les montrer maintenant, comme ça tu vas me donner ton avis.
Ouais. Ah ouais, ok, d'accord.
Donc on n'est pas sur, c'est pas moche, mais c'est
non,
pas.
Non, c'est pas moche. Non, non, c'est vrai. Mais en effet.
Ça pourrait être plus beau, tu vois. Tu vois.
Ouais.
Ça fait un peu basique,
oui.
Un peu cheapos même. Tu vois, genre sur, typiquement sur cette case-là, je trouve que ça fait cheap. Je trouve que c'est pas au niveau.
Complètement.
Par contre, si tu regardes un peu après, je crois qu'il y a les, ou avant, c'est, il y a les décors. Donc là, pour comme il n'y a pas le format vidéo, je montrais à Kevin un genre de livret de presse.
Ouais.
Tu vois, les décors,
ah ouais,
ils se sont chauffés.
Ouais, en effet, ça a l'air...
Tu vois ?
Les décors ont l'air très stylés. Mais c'est vrai que ça fait vraiment... Enfin, les personnages, c'est vrai que c'est carrément dommage, en fait.
C'est hyper dommage. Surtout, la couleur des personnages, elle est fade. Enfin, je sais pas, c'est...
C'est
ça fait
fade,
vieil animé des années 80, un peu cassé.
Elle a une petite vibe. Enfin, là, je vois une sorte de petite vibe presque Miyazaki, tu vois, qui fait un peu... qui est stylé. Mais alors, là... Ou, enfin, le
ouais,
côté... le côté, ben, les cicatrices, quoi, sur le personnage, bon...
C'est ça.
En effet. Mais cette espèce de, en effet, de décor un peu futuriste.
Et puis c'est un style graphique aussi, tu vois, dans le décor qui est, et c'est ça, attends que je t'expliquais, je pense qu'on le voit assez bien là. C'est qu'en gros, tu vois, t'as différentes couches. Donc là, t'as les décors de fond. Là, t'as les effets un peu. Et là, tu vas avoir les genres de baleines. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, carrément.
Qui sont sur trois plans distincts et qui donnent vraiment une impression de profondeur et de mouvement.
Mais qui donne une sensation de 3D, carrément? Ou...
Pas de 3D,
pas 3D,
mais de profondeur.
Ok.
Et ça, c'est ce que je t'expliquais, c'est les différentes manières dont ils souhaitent faire évoluer le spectacle.
Ok.
Mais si tu veux, tu pourras le lire.
Bon, je regarderai, ouais, carrément. Mais en tout cas, projet carrément innovant et carrément
exactement.
Fou,
quoi. Et puis, c'était aussi l'occasion, je lui fais une petite dédicace, une personne que j'ai rencontrée là-bas, qui est, avec qui j'échange depuis longtemps sur Instagram, qui est Sego du podcast Ohio.
Okay.
Qui est un podcast manga qui est super cool. Et ça fait un milliard d'années qu'on doit se voir, on s'est jamais vu. Et là, on s'est rencontrés, on était tous les deux invités, donc on a pu se voir et
okay.
C'était très cool. Je pense qu'on arrive à la fin. On est
ouais.
À 1h07, donc à peu près avec les
bon,
petits cuts que je ferai, ça fera 1h.
Parfait.
On est bon. Et puis, bah, merci Kevin.
Merci à toi, Charles.
Et à la prochaine.
À la prochaine.